Santé, une chronique libre autour des corps, du soin, des soignants,
soignantes,
des patients,
patientes
et du système de santé. Toucher le cerveau, changer l'esprit. Une promenade radiophonique subjective autour de la psychochirurgie. Premier épisode. Alors on fait quoi aujourd'hui comme coupe? On raccourcit les lobes et on dégage un peu le front?
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
J'ai face à moi un spécialiste mondial du cortex frontal ou préfrontal, un morceau de cerveau dont vous saurez bientôt qu'il est le siège de notre humanité. Je ne plaisante pas du tout, pas un être vivant sur cette terre n'est doté de cette machine incroyablement complexe et perfectionnée qui nous permet de penser, d'imaginer, de créer. En gros, si les hommes à qui la nature n'a pas donné d'ailes n'avaient pas de cortex frontal, ils n'auraient jamais songé à voler.
Lobotomie, nom féminin apparu au XXe siècle, formé à partir des mots grecs lobos, le lobe, et tomé, la coupure. Définition, intervention consistant à sectionner certaines fibres nerveuses à l'intérieur du cerveau. La lobotomie est pratiquée sur des sujets présentant des troubles graves du comportement, à prédominance anxieuse ou obsessionnelle. Aujourd'hui, la lobotomie est l'une des techniques chirurgicales les plus décriées, et à la lecture qu'on en fait aujourd'hui d'un point de vue médical et éthique, la première question qui se pose le plus souvent est « Mais comment a-t-on pu faire ça ?» Pourtant, depuis sa première description en 1935 jusqu'à son abandon progressif à partir des années 1950, elle a valu le prix Nobel de médecine au médecin qui l'a mise au point et a été appliquée à des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Dans quelles conditions cette pratique a-t-elle vu le jour? Quels arguments ont été avancés pour la justifier? Quels en ont été les résultats et quelles réactions a-t-elle suscité? Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons nous plonger dans l'histoire de ce que l'on appelle la psychochirurgie ou neurochirurgie des troubles mentaux. Le titre de cette série de deux épisodes est directement emprunté à un ouvrage de Carlos Parada, paru en 2016 aux Presses universitaires de France. Ce livre ainsi que celui d'Adèle Yon, « Mon vrai nom est Elisabeth », publié en 2025 aux éditions du Sous-Sol, ont inspiré et nourri ce récit. Et je vous en recommande la lecture.
Are you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?
Les sources historiques font remonter les premières interventions sur le cerveau humain aux plus anciennes traces connues de trépanation, c'est-à-dire aux marques d'ouverture de la boîte crânienne, dont les premières traces exhumées datent de près de 10 000 ans. Petit aperçu historique sur Radio-Canada.
Oui, la trépanation, là, donc cette intervention qui consiste à percer un trou dans la boîte crânienne, mais elle a été pratiquée un peu partout dans le monde. Et les premiers exemples trouvés en Afrique du Nord remontent là, à près de 10 000 ans. En France, on a trouvé beaucoup de traces de trépanation sur des crânes de la période du Néolithique là, qui dataient d'environ 5 000 ans. Et c'est chez les anciennes civilisations des Andes, en particulier chez les Incas, qu'on a trouvé le plus de crânes qui avaient subi cette intervention. Au Pérou, c'est là qu'on a trouvé en fait plus de crânes trépané que partout ailleurs dans le monde. Là, la pratique s'étend sur une période de 2000 ans, du 5e siècle avant notre ère, là, jusqu'à la conquête là, au 16e siècle.
À l'époque, il n'y a pas encore de trépan, outil développé plus tardivement pour découper l'os et dont dérive le terme de trépanation. Pourtant, des techniques d'ouverture du crâne ont déjà été mises au point et sont couramment utilisées.
On procédait comment là, pour faire ce genre d'intervention-là, pour percer la boîte crânienne?
Première étape, c'était toujours de couper le cuir chevelu pour accéder à l'os du crâne. Par la suite, il y avait plusieurs techniques qui étaient utilisées. On pouvait faire un trou par abrasion en grattant l'os. Ouf. Sinon, faire 4 incisions pour retirer une plaque d'os carré. Dans d'autres cas, on a utilisé des forêts pour aller percer une série de petits trous rapprochés là, pour aller retirer un disque d'os. Mais dans tous les cas, il fallait savoir éviter les lignes de suture du crâne là où se trouvent des vaisseaux sanguins pour éviter de causer des hémorragies.
Si certains scientifiques pensent que ces opérations ont été effectuées dans un contexte de rituels magico-religieux, on ne sait pas réellement ce qui motivait des interventions aussi risquées. On ne peut que faire des suppositions par analogie avec les indications plus récentes de la trépanation, en particulier au 19e siècle, où cette technique a beaucoup été employée. Et on peut imaginer que très tôt, certaines interventions visaient déjà à soigner des maladies d'origine cérébrale, comme les crises d'épilepsie. Il faut en fait attendre les 11e et 12e siècles pour trouver les premiers écrits qui mentionnent des interventions réalisées pour traiter les troubles mentaux. En 1170, un chirurgien de l'école de Salerne, Roger de Parme, décrit un traitement de la mélancolie par réalisation d'une incision en croix au sommet de la tête, à partir de laquelle le crâne est pénétré afin de libérer les humeurs nocives. Cependant, les textes similaires sont rares et la fin du Moyen-Âge livre avant tout des témoignages picturaux du traitement de la maladie mentale par la trépanation. La plus connue est l'excision de la pierre de folie, représentée sur de nombreux tableaux. Cette pratique fait allusion à une croyance selon laquelle la folie serait causée par la présence d'une pierre ou lithiase dans la boîte crânienne. Dans l'imaginaire populaire, guérir la folie revenait à extirper ce corps minéral en réalisant ce que l'on appelait une lithotomie. On peut néanmoins considérer qu'il s'agissait d'une intervention superficielle et non d'une chirurgie intracrânienne. Une incision verticale était pratiquée au milieu du front ou du cuir chevelu, et après cette coupure, le soigneur, par un tour de passe-passe, faisait apparaître une petite pierre, afin de prouver au patient la complète réussite de l'intervention. Geste thérapeutique par effet placebo, charlatanisme, symbole, fiction artistique, l'opération de la pierre de folie reste énigmatique. Ensuite, jusqu'au XIXe siècle, les témoignages sur des interventions chirurgicales à visée psychique sont rares. Dans son ouvrage « Psychochirurgie », le docteur Marc Lévesque mentionne deux médecins anglais, Robert Burton et Thomas Willis, qui au XVIIe siècle recommandent tous deux la trépanation pour traiter la mélancolie sévère. La psychochirurgie va en fait connaître un réel essor dans le sillage de celui de la neurochirurgie moderne qui se développe à la fin du XIXe siècle. À cette époque, l'accès direct au cerveau après ouverture du crâne avec un risque moindre d'infection est rendu possible grâce à l'avènement des techniques dites des 3A. L'anesthésie, utilisée à partir de 1846, d'abord à l'éther puis au chloroforme, qui commence à traiter la question de la douleur. L'antisepsie, c'est-à-dire la destruction des microbes sur la peau et dans les plaies à partir des années 1860, et l'asepsie, par stérilisation du matériel à partir des années 1880-90. Ces techniques combinées réduisent drastiquement la mortalité et permettent un essor de la chirurgie en général et de la neurochirurgie en particulier. Écoutons à ce sujet un extrait de la série documentaire, toujours sur France Culture en 2025.
Alors, les 3A sont un bouleversement dans la mesure où, avec l'anesthésie, la question de la douleur commence à être traitée. Tout ça se fait assez lentement. Disons que l'anesthésie, c'est autour des années 1840, l'antisepsie à partir des années 1860, et puis l'asepsie vers 1880-90. Donc, il faut vraiment attendre la toute fin du 19e siècle pour que les conditions de l'opération chirurgicale moderne se mettent en place. Mais à ce moment-là, c'est vertigineux pour la chirurgie, puisque toutes ces limites précédentes vont sauter, et c'est une ère où on peut tout tenter. Donc il y a une véritable ivresse, une frénésie d'opérations, de conquêtes de nouveaux territoires pour la chirurgie. On peut s'attaquer au cœur, au cerveau.
À ses débuts, la neurochirurgie vise d'abord à traiter une lésion, blessure, traumatisme, tumeur ou œdème. Cependant, la multiplication des opérations réussies offre aussi un matériel d'observation inédit de la cartographie des différentes aires du cerveau et des conséquences comportementales des interventions chirurgicales menées sur telle ou telle zone cérébrale. Mais c'est au cours de la Première Guerre mondiale que se développent de nouvelles techniques neurochirurgicales et que se multiplient les observations qui font progresser la connaissance. Les blessés de la tête sont légion, et parmi les survivants dont le cerveau est lésé, certains conservent un fonctionnement mental normal, tandis que d'autres deviennent indifférents au monde extérieur et passif. Il semble alors se confirmer ce qui avait été suggéré précédemment par l'observation de malades atteints de tumeurs cérébrales ou ayant subi une destruction traumatique ou chirurgicale de zones étendues du cortex. La possibilité pour certains, ou certaines, d'une vie psychique quasi normale et par ailleurs la relation intime entre le lobe frontal et la personnalité. En parallèle des progrès de la neurochirurgie, les aliénistes, comme on désigne à l'époque les médecins qui travaillent sur les maladies mentales, produisent des descriptions cliniques minutieuses de leurs patients-patientes et proposent une grande variété d'entités cliniques et un foisonnement de classifications de maladies mentales. Pourtant, malgré ce travail de description et près d'un siècle d'autopsie des personnes considérées comme malades mentales, à la recherche d'une correspondance anatomo-physiologique entre corps et folie, rien ne permet de distinguer le Saint-Esprit du malade. Chaque nouveau progrès technique dans l'exploration du système nerveux central promet de révéler les marqueurs biologiques de la folie, mais cette quête reste vaine. Au milieu du XXe siècle, ces efforts descriptifs attendent encore une validation scientifique, soit par l'établissement d'un lien entre une cause organique évidente et son expression clinique, soit par la preuve de l'efficacité d'une intervention ou d'un traitement sur une pathologie mentale.
Are you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?
Quand on retrace l'histoire d'une invention, la dramaturgie requiert d'évoquer les précurseurs, celles et ceux qui les premiers ont osé, souvent au péril de leur vie, ou en médecine au péril de leur cobaye. Dans le récit de la psychochirurgie, le nom qui est généralement cité est celui de Gottlieb Burckhardt, aliéniste suisse, qui le premier, et sans être chirurgien d'ailleurs, s'attaquera vers 1888 au cerveau humain, afin d'agir directement sur les troubles mentaux, dans le but avoué de transformer les démons agités en démons calmes. Se basant sur les connaissances physiologiques de son époque, il émet l'hypothèse que l'hyperactivité d'un centre sensoriel serait à la base de l'agitation des malades. Il en conclut la possibilité de déconnecter ce centre perturbateur en excisant une parcelle du cortex cérébral, et va tester son hypothèse sur 6 patients chroniques, pour qui les traitements de l'époque ont échoué. On dispose de peu de détails concernant les suites opératoires et notamment les très probables déficits neurologiques. On sait seulement que l'un des opérés succomba 6 jours après l'intervention au milieu de convulsions, tandis qu'un second présenta une crise d'épilepsie. Un autre de ces malades, sorti un an après l'intervention, se suicida peu de temps après. Il semble que les 3 autres malades présentèrent une accalmie de leurs troubles. Peu importe, ces résultats furent considérés par Burckhardt comme suffisamment concluants pour être présentés au Congrès médical de Berlin en 1890, où ils rencontrèrent peu d'écho et furent désapprouvés par ses collègues. Vers 1910, un neurochirurgien estonien, Lodovicus Pusep, réalisa des interventions similaires sur 3 patients maniaques ou épileptiques, mais les résultats furent également négatifs. Ses premières tentatives de soigner des maladies mentales par la destruction ou le retrait de la partie du cerveau supposée responsable du trouble se basent, comme on l'a dit précédemment, sur des observations réalisées chez des personnes ayant subi une neurochirurgie au niveau frontal et qui conservent une vie psychique, même si elle est fortement appauvrie. Les premiers expérimentateurs s'appuient aussi sur quelques très rares études menées chez le singe, qui ont montré qu'en déconnectant ce lobe frontal, on supprime, entre guillemets, les comportements émotionnels sans entraîner une altération trop importante des fonctions cognitives, comme nous le rappelle le docteur Marc Lévesque.
Après qu'il y ait eu quelques expérimentations animales qui ont montré que finalement, en déconnectant le lobe frontal, c'est-à-dire la partie du cerveau qui est derrière notre front, du reste du cerveau, notamment d'un noyau qu'on appelle le thalamus, on pouvait un petit peu abraser tous les comportements, enfin toute la composante émotive d'un comportement. Et ils s'en étaient rendus compte chez des singes. Ces singes à qui on faisait faire des exercices, lorsqu'ils échouaient, après lobotomie, n'avaient plus de comportement de frustration. Par contre, ils continuaient à réussir tant bien que mal leurs exercices. Donc il n'y avait pas une altération cognitive trop importante.
Avant d'en arriver enfin au début officiel de la lobotomie, prenons un moment pour faire un petit point sur l'état de la psychiatrie dans les années 1930-40 en France. Les asiles, comme on les nomme jusqu'à l'apparition du terme « hôpital psychiatrique » en 1937, sont avant tout des lieux d'enfermement des aliénés, terme utilisé lui jusque dans les années 50. Ces derniers sont environ 110 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et la prise en charge repose beaucoup sur ce que Carlos Parada décrit comme le concept de dissolution-résolution. Pour faire court, dans la maladie mentale, tout le système nerveux se dissout, sous l'effet de l'influx nocif. On va donc appliquer aux patients-patientes des chocs répétés qui vont chambouler les neurones et permettre au cerveau et donc à l'esprit de se réorganiser et de résoudre son trouble. Petit aperçu des différentes méthodes utilisées sur France Culture en 2007.
Alors, si on prend dans l'ordre chronologique, il y a d'abord la malaria thérapie.
Bon réflexe, historien. Bon réflexe.
Qui a été mise au point en 1917, mais qui se répand dans les asiles français qu'à la fin des années 20, qui est préconisée dans le traitement de la paralysie générale, qui consiste tout simplement à inoculer le germe du paludisme aux malades.
Ça fait quel effet ?
Ça crée une forte fièvre. Essentiellement.
Et alors ?
Et l'étape suivante est de réduire cette fièvre par l'administration de quinine. Le but est effectivement de mettre le malade en état de choc hein, pour qu'il se reconstruise psychiquement. On ne connaît absolument pas le mécanisme d'action de cette thérapeutique.
Ça se pratique encore ?
Non.
Bon, alors ensuite, il y a le coma hypoglycémique qui est provoqué par l'insulinothérapie, ça
oui.
aussi c'est terrifiant.
Alors ça c'est une thérapeutique qui est inventée en 1933. Ce qu'on appelle aussi la cure de Sakel, hein, du nom de son inventaire. Donc, ça consiste effectivement à provoquer un coma hypoglycémique, puis donc par injection d'insuline, puis ensuite à resucrer le malade.
À resucrer le malade.
Pour le sortir du coma.
Et on voit aussi qu'il y a eu la pyrétothérapie, où on injecte du nucléinate de soude aux malades et aussi à des abcès de fixation avec des injections d'huile soufrée.
Oui, alors là, on est dans le même ordre thérapeutique que la malaria-thérapie. Ce sont effectivement des thérapeutiques qui consistent à provoquer de fortes fièvres.
On est encore dans l'enfance de la médecine dans ce domaine, puisqu'on provoque des événements dont on n'explique absolument pas les effets.
Surprenant, non ? Alors, pour bien comprendre le contexte, il faut se rappeler que ces expérimentations thérapeutiques sont rendues possibles par la situation juridique des malades qui sont dépourvus du moindre droit. Carlos Parada parle à ce sujet d'un système d'exclusion et de disqualification d'autrui qui caractérise la psychiatrie de l'époque. De même, il n'y a quasiment aucune réflexion sur le consentement des malades soumis à de véritables expériences médicales comme nous venons de l'entendre, même si des oppositions ont toujours existé. Ce n'est qu'en 1948 que le Code de Nuremberg, document fondateur de l'éthique médicale moderne, issu du procès des médecins nazis, pose les principes éthiques de la recherche sur les êtres humains et érige, au moins de manière théorique, le consentement volontaire comme une exigence absolue de toute intervention sur la personne. Ainsi, la conjonction de la pauvreté thérapeutique de l'époque, de l'évolution des connaissances du fonctionnement cérébral et du statut des malades, a créé le cadre idéal des premières tentatives de destruction curative du cerveau.
Death, she must have been your will. Up on beneath the reaper's veil. And with your voice my belly sunk. And I began to feel so drunk. Candle, candle on my clock. Oh Lord, I must have heard you knock me out of bed as the flames licked my head and my lungs filled up black in that tiny little shack. It was real and I repent all those messages you sent clear as day, but in the night, oh, I couldn't get it right. A church, and here is a steeple. Open the doors, there are the people, and all their little hearts at ease for another week's disease. An eagle, towel and scream. I never once left in between. I was on the fence, and I never wanted your 2 cents down my throat into the pit with my head upon the spit. Oh, Reverend, please, can I chew your ear? I've become what I most fear, and I know there's no such thing as ghosts, but I have seen the demon host.
La première lobotomie officielle de l'histoire a lieu le 12 novembre 1935 à Lisbonne. Elle est réalisée par un neurochirurgien, Pedro Manuel de Almeida Lima, sous la supervision d'un homme qui va entrer dans l'histoire, Egas Moniz. À l'époque, on parle de leucotomie préfrontale bilatérale, dérivée du terme leuco qui désigne la substance blanche du cerveau, et bilatérale parce que réalisée des deux côtés du crâne. Le terme de lobotomie n'existe pas encore. L'intervention consiste en la réalisation de deux trous de trépan dans la région frontale haute. Une aiguille est introduite par ces orifices et de l'alcool absolu est injecté dans chaque lobe frontal pour les détruire. Aucun essai n'a été réalisé chez l'animal, mais le docteur Lima a pris le soin de s'entraîner sur deux cadavres avant de s'attaquer au cerveau de sa patiente. Car oui, c'est une femme et pas la dernière, comme on le verra par la suite. De cette malheureuse d'ailleurs, on ne sait pas grand-chose, hormis quelques informations lacunaires. Madame C, 63 ans, ayant mené une vie de prostitution et d'excès alcoolique, souffrant d'une mélancolie et de délires paranoïaques et hospitalisée de force depuis 3 ans. Les raisons qui ont poussé Moniz à intervenir chirurgicalement sur le cerveau de malades mentaux sont discutées, certains renvoyant à l'influence qu'aurait eue sur lui l'expérience réalisée chez deux singes dont on a parlé, d'autres soulignant ses vastes connaissances en neurologie. Il est tout de même intéressant de souligner qu'il n'y a eu aucune réelle expérimentation animale menée avant la première série d'opérations chez l'homme. On peut avancer plusieurs explications. Le fait que de nombreux médecins de l'époque estiment qu'on ne peut pas utiliser l'animal pour étudier des fonctions et des pathologies strictement humaines, mais aussi l'empressement de Moniz à obtenir des résultats positifs afin de pallier l'absence de base théorique sérieuse à son hypothèse et obtenir enfin la gloire après laquelle il court, comme nous le rappelle Marc Lévesque.
Alors il a eu un acte 1 prix Nobel en 26, quelque chose, ou 27, tentative échouée, et puis une nouvelle acte 2 en 36, aussi échouée, et puis il va réussir en 49. Il joue un peu quand même de ses relations, il veut absolument l'avoir.
Exactement, c'est quelqu'un bon, qui est pris quand même de reconnaissance, bon, qui a fait un beau mariage, qui a eu un bel héritage, pour qui tout a réussi, hein, que ce soit au niveau politique, au niveau professionnel, voilà, un petit peu ce qui doit venir couronner un peu cette carrière hors du commun, c'est le prix Nobel, et effectivement, il fera feu de tout bois pour pouvoir l'avoir, ce prix Nobel.
Alors même si le résultat n'est franchement pas extraordinaire, cette intervention est qualifiée de succès par son opérateur. La patiente est devenue plus docile. Elle ne quittera a priori jamais l'hôpital et on n'entendra plus jamais parler d'elle. Qu'à cela ne tienne, en 2 mois et demi, Moniz, qui n'opérera jamais directement lui-même et son équipe, renouvelle la leucotomie sur une 20aine de malades. Et ce, alors même que de son propre aveu, on ne sait pas comment marche la leucotomie. Le dernier crâne fraîchement percé, il fonce présenter ses résultats à Paris. Selon lui, il n'y a eu aucun décès, aucune aggravation, 35% des patients guéris, 35% présentant une amélioration clinique et 30% sont sans résultat. Il accompagne sa présentation de photos des malades avant-après, comme preuve visible de l'efficacité du traitement. Mais là, catastrophe, c'est la douche froide. La communication de Moniz est accueillie par les psychiatres français avec une indifférence mêlée d'un certain scepticisme. On sait à l'époque que toute mutilation du lobe frontal laisse craindre un affaiblissement intellectuel. Certains médecins reprochent à la leucotomie d'être plus expérimentale que thérapeutique, car dénuée de fondement clinique. Aussi, à part une seule leucotomie réalisée en 1939, et qui valut à son auteur une vague de critiques, on n'en entendit plus parler en France pendant des années. Moniz et Lima ne se découragent pas et opèrent encore près d'une 100aine de patients avec un suivi qui demeure obscur. En Europe, seuls les Italiens et un Estonien reprennent la technique et commencent à opérer. En 1939, on estime à 500 le nombre de leucotomisés en Europe. Bien, mais peut mieux faire. Le salut viendra des États-Unis, où dès 1936, Moniz retient l'attention d'un neuropsychiatre de l'Université de Washington, Walter Freeman, retenez bien ce nom. En 2 coups de pique à glace et d'électrochoc, on va passer d'une technique lourde et complexe, relativement décriée, à une opération semi-industrielle, durant à peine 10 à 15 minutes, et qui va s'étendre dans de nombreux pays et au-delà de la psychiatrie, devenir aussi un outil de contrôle social. On estime à près de 100 000, dont la moitié aux États-Unis, le nombre de patients-patientes lobotomisés entre 1945 et 1955, période pendant laquelle la psychochirurgie va connaître son âge d'or, avec pour point d'orgue l'attribution du prix Nobel à Moniz en 1949. Ensuite, ce sera la chute, tout aussi rapide. Mais tout ça, on le verra dans le prochain épisode. Alors patience et santé. Barely see my breath surrounded by jealousy and death. I can't be reached, only heaven calls.
of everything I've learned. I hit my tracks, spit out all my air, slipped into cracks, stripped of all my cares, my down.